PMU.fr est fier de soutenir Vue du Banc. Parce que pour bien parier, il faut bien comprendre le jeu.
Bonjour, bienvenue dans le 36e épisode de la saison 5 de Vue du Banc. On se retrouve aujourd'hui pour une petite foire aux questions, parce qu'il n'y a pas vraiment d'actu, c'est la trêve internationale. Les matchs sont pas forcément intéressants, la France a deux petits matchs qui l'attendent. Je suis aujourd'hui seulement accompagné de la Tonus, de Florent Tonuti. Salut Florent.
Salut.
Florent de Chronique Tactique et d'autres choses obscures. Christophe ne pouvait pas être là ce soir, donc on fera sans lui pour ce podcast. On va se nourrir, s'enrichir des questions que vous avez posées sur Twitter. Florent, il y en avait pas mal, d'ailleurs sur des sujets assez variés, assez différents.
Ouais.
Il y en a certaines qui reviennent, notamment sur la réforme possible de la Ligue des Champions. On l'évoquera d'ailleurs en fin d'épisode. Mais on va démarrer par les qualifications de l'Euro, puisque oui, la Ligue des Nations ne sert pas à tout. Elle sert justement à qualifier seulement 4 équipes. Et les 20 autres vont passer, par les qualifications. Florent, ça commence là, dans les jours à venir. Alors, rappelle-nous un peu comment ça va fonctionner, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Il y a combien de groupes, il y a combien de qualifiés, comment ça se passe?
Ouais, et puis ça change quasiment à chaque nouvelle compétition, que ce soit Coupe du Monde ou l'Euro précédent, puisqu'on passait à 24, du coup ça a changé les qualifs. Bref, là je crois qu'il y a 10 poules. Et tout simplement, au final, ils ont quand même réussi à faire quelque chose de simple pour compenser avec la Ligue des Nations. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour la phase finale de l'Euro. Et ensuite, donc ça fait 20 équipes qui vont se qualifier. Et ensuite, les 4 dernières, ce seront les 4 qui remporteront chacune des divisions de la Ligue des Nations, donc Ligue A, Ligue B, Ligue C et Ligue D. La question qui se pose, par contre, c'est, et là on la posera aux gens qui nous écoutent, parce que je n'ai pas trouvé la réponse, c'est qu'est-ce qui se passe si y a un des vainqueurs de la Ligue des Nations qui est aussi dans les deux premiers de sa poule. Là, par contre, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils font passer les meilleurs troisièmes ensuite? Est-ce qu'ils repêchent quelqu'un est-ce qu'ils repêchent un finaliste de Ligue des Nations? Enfin bref. Il reste cette zone d'ombre-là, mais bon, on a 2 ans pour essayer de s'y faire, donc... On va quand même réussir, je pense.
Bon. En attendant, on va quand même parler des équipes qui vont y participer. Ça rejoint une question que nous a posée sur Twitter, une question de Tidette, qui nous dit, je ne sais pas si c'est un verlan de Edith, qui nous dit, c'est quoi les nations à suivre sur ces qualifs de l'Euro? L'Euro 2020 qui sera disputé, on le rappelle, dans toute l'Europe. Il n'y aura pas vraiment de pays hôtes. Je crois que c'était la dernière idée de Platini avant de partir, il me semble.
Ouais, il y aura une phase finale à Londres, je crois, les derniers matchs. Je sais que près de la France, en tout cas près de chez moi, la ville la plus proche, la ville haute, sera Bilbao, avec le nouveau Saint Mamès. Et après, c'est vrai que ça va aux quatre coins de l'Europe. Je crois qu'il y a des matchs qui vont jusqu'à Bakou, qui sera ville haute aussi en Azerbaïdjan. Donc c'est vrai que si vous voulez suivre votre équipe pendant l'Euro, là, ça sera beaucoup plus compliqué qu'en 2016 où tout était dans le même pays et où ça s'était plutôt bien passé, en tout cas chez moi. C'est vrai que ça s'était moins bien passé du côté de Marseille avec Angleterre-Russie. Mais c'est vrai que ça va être assez nouveau et peut-être assez bizarre comme situation, avec pas mal de longs voyages pour les supporters qui auront décidé de choisir, enfin de suivre leur équipe, quoi.
Et de suivre peut-être les équipes que nous suggère Tidette. Il parle notamment de l'Allemagne. L'Allemagne qui s'est radicalement rajeunie après son échec à la Coupe du Monde. Des Pays-Bas qui sont en croissance, en renaissance depuis quelques mois et même depuis un an et demi. Et puis de l'Italie qu'on avait vu sympathique lors de la Ligue des Nations, Florent. Ça jouait pas trop mal. C'était pas forcément toujours dans la concrétisation de ce que ça arrivait à créer, à produire. Mais il y avait clairement une nouvelle identité avec Mancini. Quelles équipes retiennent ton attention avant le début de ces phases qualificatives?
Oui, non, mais ces trois-là, c'est plutôt bien résumé. On peut se pencher par contre sur les groupes qui attendent ces équipes-là. Bon, les Pays-Bas et l'Allemagne, ils vont se retrouver. Ils se retrouvent d'ailleurs dès ce vendredi, ou samedi, je ne sais plus. Là, c'est dans la semaine qui arrive, là, dans la fin de semaine, puisqu'ils sont dans le même groupe avec les Pays-Bas. Voilà, ils vont se retrouver. Bon, logiquement, ce sont ces deux-là qui devraient sortir de ce groupe C, puisque à côté d'eux, il y aura la Biélorussie, l'Estonie et l'Irlande du Nord. Mais bon, je pense que ce sera Pays-Bas-Allemagne, les deux plus grosses affiches, match aller et match retour, sur ces qualifs. Parce qu'après, c'est vrai que quand on regarde les autres groupes, il n'y a pas trop de choc de ce genre.
Il n'y a pas vraiment de groupe de la mort, ouais, quand on regarde le reste. Bon, il y a du Espagne-Suède.
Ouais, après, on peut parler, voilà, tu parlais de l'Italie. C'est vrai qu'ils vont avoir un groupe, par contre, où il va falloir qu'ils arrivent à concrétiser, parce qu'ils vont sans doute, à part peut-être face à la Bosnie, ils vont surtout faire face à des équipes qui vont attendre.
Liechtenstein, Grèce, Finlande et Arménie pour l'Italie.
C'est ça. Il t'en manque une. Oui, non, la Bosnie que j'avais citée. Mais c'est vrai que on les avait redécouverts plutôt très intéressants avec le milieu de Jorginho Verratti. Mais aussi avec quelques soucis de finition dans certains matchs de la Ligue des Nations. Et c'est vrai que là, par contre, sur quand tu vois les qualifs et quand tu vois le groupe qui les attend, ils n'auront pas de problème de maîtrise. Donc, il faudra sans doute que peut-être que Verratti soit amené à aller chercher encore un peu plus haut pour forcer la décision, si les attaquants manquent encore de réalisme. Mais bon, c'est vrai que les défenses en face ne seront pas les mêmes non plus. Mais ça sera à suivre, parce que voir cette Italie-là dans une situation où elle va dominer, etc., comment ça va se passer, ça devrait être intéressant quand même, même si c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup d'adversité pour eux.
Si on doit citer d'autres équipes, il y a aussi, je pense, l'Angleterre qui avait montré des choses un peu plus intéressantes à la Coupe du Monde que d'habitude. Alors ça s'était un peu étiré au fil de la compétition et tu avais senti des limites, mais là peut-être qu'avec par exemple le renouveau de Rashford, avec des jeunes joueurs qui arrivent comme Sancho, ça va être aussi une équipe à suivre. Et le Portugal un peu dans le même cas, avec toujours Ronaldo, mais autour du Ruben Neves, du Bernardo Silva qui continue de progresser. Si tu devais choisir une de ces deux équipes, Florent, à suivre, ce serait laquelle, sachant que le groupe de l'Angleterre, c'est Bulgarie, République tchèque, Kosovo, Monténégro, et que celui du Portugal, c'est Lituanie, Luxembourg, Serbie et Ukraine. Donc peut-être un peu plus dur pour le Portugal,
Ouais, le fait
même
d'avoir l'Ukraine et la
si...
Serbie, même
Voilà,
si
c'est ça, ouais.
l'Ukraine est en retrait quand même
Ouais.
depuis que les Français les ont sortis en barrage en barrage pour la Coupe du Monde 2014. Mais ouais, non, c'est vrai que ça a l'air un petit peu plus dur pour le Portugal, même si Monténégro, Kosovo, il y a des petits joueurs qui se montrent à gauche à droite. On peut penser à Zenelli, là, le joueur de Reims, qui ça fera très plaisir à Christophe en fait qu'on parle de Zenelli, parce qu'il nous en parle très souvent dans nos discussions privées. Mais c'est vrai que ouais, ces deux équipes forcément seront à suivre. Ils sont largement favoris, et c'est vrai que dans chaque groupe, on peut dégager quand même un favori assez large, à part le groupe de l'Allemagne et des Pays-Bas, évidemment. Mais c'est vrai que pour revenir à l'équipe de France, quand tu vois là, le groupe qui attend les Bleus, on peut se dire qu'ils ont été vernis, parce que Albanie, Andorre, Islande, Moldavie et Turquie, sachant que la Turquie n'est plus non plus la sélection qu'elle a été il y a
La
une dizaine
Turquie,
d'années.
ça fait 16 ans qu'ils ont, enfin
Ouais.
peut-être 2008, peut-être leur dernière belle
Ouais, c'est
compétition,
ça, l'Euro
qu'ils
2008, ouais.
font quart de finale ou demi, je sais plus, un des deux.
Je crois qu'ils font quart
Et ils sortent contre la Croatie ou quelque chose comme ça, ou...
Ouais, avec des buts à la 118e ou 120e minute à chaque fois. Ils nous avaient réservé des scénarios assez fous. Mais c'est vrai que le groupe des Bleus, comme le groupe de l'Angleterre, voire même, tu vois, le groupe de la Pologne, quand tu vois le groupe de la Pologne, où elle se retrouve avec Autriche, Israël, Lettonie, Macédoine et Slovénie. Alors derrière eux, c'est très compact, mais a priori, la Pologne a peut-être, ne serait-ce qu'avec ses deux attaquants, une longueur d'avance sur tous ces poursuivants, quoi.
Dans une équipe que tu as citée et qui continue de monter aussi et qui a désormais un attaquant, un des plus cotés sur le marché, c'est la Serbie avec Jovic. Là aussi, ça peut être plutôt intéressant à suivre, sachant qu'ils avaient fait une Coupe du Monde inachevée, mais où ils avaient montré quand même, notamment contre le Brésil, des promesses avec notre ami Kostic aussi.
Ouais, et Kostic, Milinkovic-Savic aussi, qui avait fait un très bon premier match, je crois, de Coupe du Monde, je sais plus contre qui c'était.
Et
Et ça s'était moins
avec
bien passé après.
je sais pas ce que j'ai dit sur Jovic, mais ah bah il est serbe et bosnien aussi, donc mais je crois qu'il joue en équipe de Serbie, si je ne m'abuse, si je dis pas de bêtises.
C'est possible, mais ils ont aussi toujours Mitrovic, qui fait une saison correcte, malgré la chute et la relégation annoncée de Fulham
Ouais,
en
c'est ça,
première ligue.
il joue en équipe de Serbie, mais il est né en Bosnie, donc ça doit être sympa dans le vestiaire.
Et en plus, la Serbie a quand même aussi une génération qui pousse derrière, puisque leur génération de joueurs nés en 96, qui va, elle, disputer l'Euro Espoir, la phase finale de l'Euro Espoir qui va débuter, je crois, mi-juin. Tous ces joueurs-là avaient remporté le mondial des moins de 20 ans face au Brésil. Donc ça remonte, 96, c'était 2016, j'imagine, ou 2015.
Génération Milan Gaïc.
Ouais, c'est ça, génération Gaïc, Jovanovic aussi d'ailleurs y était, pour citer un autre bordelais. Mais oui, c'était une génération qui avait fait plutôt bonne figure lors de ce mondial, qui avait réussi à trouver certains contrats dans des clubs de seconde zone, certes, mais certains contrats intéressants. À voir comment va se passer l'intégration de cette génération-là à l'équipe première, sachant que pour l'instant, a priori, elle va être amenée d'abord à disputer l'Euro Espoir qui a lieu cet été, quoi.
Ouais, sachant que 97, c'est pas mal aussi, parce qu'en plus de Jovic, il y avait également Milenkovic, qu'on avait bien aimé à la Coupe du Monde, défenseur de la Fiorentina, long, pas trop mal techniquement. Alors, il jouait pas dans une équipe très très ambitieuse, mais il avait montré quand même des choses plutôt sympas. On parlera pas de l'équipe de France, Florent, on en parlera mardi.
Ouais.
Après les deux matchs, il y aura plus de choses à dire, parce que là, pour le coup, à part parler des 23 qui ont été sélectionnés et s'indigner de certains trucs, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire.
Non, et puis tout le monde, l'indignation, tout le monde s'en est déjà chargé, donc
Oui,
on va
voilà.
attendre les matchs pour voir ce qu'il en est.
On va éviter de répéter, on va passer pour changer un peu au pari, on va les faire maintenant juste après les qualifs de l'Euro, puisqu'on va parler justement de matchs de qualifs de l'Euro, et puis on passera après au reste, et notamment à des questions sur la Ligue 1 et sur le football étranger européen. Tes premiers paris, Florent, on va commencer par ton premier, c'est sur la France contre l'Islande.
Oui, bah, c'est le match de lundi, deuxième match des Bleus qui vont démarrer face à la Moldavie demain soir, enfin ce soir, vendredi, puisque la plupart des gens écouteront vendredi, on est en train d'enregistrer, on est jeudi soir. Bref, donc le deuxième match de l'équipe de France, lundi soir au Stade de France, face à l'Islande. Bon, il y a une statistique simple, certes les Français ont fait 2-2 face à l'Islande en match amical, c'était je ne sais plus quand exactement, mais c'était il y a quelques mois.
Ouais, c'est quand Mbappé est rentré en jeu pour sauver le match.
Exactement, oui, puisque les Islandais ont mené 2 fois au score, ou ont mené 2-0 même, je ne me rappelle plus exactement. Mais c'est vrai que ce résultat-là de l'Islande, c'est un petit peu leur dernier résultat très positif, parce que c'est vrai qu'à part ça, depuis janvier 2018, en fait, ils n'ont pas remporté la moindre victoire, sachant qu'il y a eu une Coupe du Monde au milieu, et qu'il y a eu quand même eu pas mal de matchs de préparation, et leur dernière victoire, c'était face à l'Indonésie. Une victoire 4-0 ou 6-1, puisque juste avant ils jouent le Qatar et ils font un gros score aussi. Mais bref, les Islandais en sont depuis à 15 matchs sans victoire, des performances assez décevantes lors de la Ligue des Nations, qui leur ont valu, il me semble, une relégation dans la division inférieure pour la prochaine édition. Et du coup, je me dis que les Français, après avoir fait un premier bon résultat en Moldavie, à anticiper peut-être en France moins 2 ou moins 3 peut-être en Moldavie. Je les vois bien manœuvrer l'Islande et s'imposer sans vraiment trembler. Donc une victoire pas forcément spectaculaire, mais une victoire solide, un petit peu comme les victoires de la Juve sur lesquelles on avait parié il y a quelques semaines et quelques mois, c'est-à-dire la victoire à choix multiples, victoire 1, 2 ou 3-0. Et la cote est à 2,05. Donc voilà, pour France-Islande, ça me paraît être parmi les cotes au-dessus de 2, même si c'est pas vraiment beaucoup au-dessus, ça me paraît être assez intéressant et assez accessible.
Ton deuxième pari concerne un autre match des qualifications de l'Euro, celui-là un peu moins peut-être attendu, en tout cas en France, entre la Géorgie et la Suisse qui avait réalisé une belle Coupe du Monde également.
Oui, une belle Coupe du Monde pour les Suisses et surtout une habitude pour les Suisses, c'est quand même de rarement rater les phases éliminatoires. C'est une sélection qui a toujours été au rendez-vous, même si elle est parfois tombée dans des groupes assez homogènes. Et là, c'est un peu le cas, puisque même s'ils ont une petite longueur d'avance peut-être sur l'Irlande, ils ont aussi le Danemark dans leur groupe.
Ils ont toujours été bien classés au classement FIFA, c'est aussi
Ouais.
pour ça qu'ils ont souvent des groupes abordables.
Ouais, ils sont
Qu'ils arrivent
toujours.
à. Je sais pas comment ils s'organisent, mais j'imagine que leurs matchs amicaux sont calculés
Oui,
pour gagner des places au classement FIFA.
c'est pas faux. Je crois qu'il y avait eu 2-3 articles à ce sujet d'ailleurs il y a quelques temps. Mais voilà, la Suisse, là ils affrontent la Géorgie qui du coup, à part Gibraltar, face à qui tout le monde devrait prendre 6 points, du moins j'espère pour les équipes qui vont affronter Gibraltar, la Géorgie peut être un arbitre dans ce groupe en prenant des points soit au Danemark, soit à l'Irlande et donc soit à la Suisse. Et je me dis que de par les habitudes suisses, dans les phases éliminatoires, ils vont être capables d'aller chercher 3 points là-bas, et 3 points sans se faire peur, c'est-à-dire sans prendre de but. Donc on est un petit peu sur la même idée que le pari sur France-Islande, mais je me dis que donc face à la Géorgie, la Suisse va s'imposer sans encaisser de but. Et voilà, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Après, la Géorgie a pas vraiment eu de résultats assez concluants face à des nations vraiment supérieures à elle, en fait. Ces derniers temps, ils ont certes.
C'est quoi leur dernier bon joueur de niveau européen? Arveladze?
Je ne sais pas, mais moi je t'aurais cité Hervé Ladze, mais c'est
Oui,
plus pour Football Manager que pour.
ça fait longtemps.
Mais ça fait pas mal de temps. Bah là, j'ai le. Il y a eu Caladze aussi,
Ouais.
du Milan. Là,
La
je
même
vois.
époque.
Il y a Jabba Kankava qui était passé
Reims, il me
à
semble.
Reims, oui, c'est ça. Kankava, il y a un joueur aussi dont j'ai vu passer le nom, mais je ne sais absolument pas où il joue, mais je vois son nom qui apparaît, c'est Kvaratskhelia. Alors je ne sais pas où je l'ai vu par contre, j'ai totalement oublié. Au Lokomotiv Moscou, donc j'ai dû le croiser en Ligue des Champions une ou deux fois. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de joueurs stars comme il peut y en avoir dans d'autres sélections de la même taille. On peut penser à la. comme ça à la Macédoine, puisque aux yeux de Christophe, le milieu dont j'ai oublié le nom mais qui tire des coups francs et qui joue en Liga,
Bardi,
qui s'appelle Enis Bardi, voilà, est une petite star en puissance. Mais c'est vrai que là, sur la Géorgie, il n'y en a pas vraiment qui ressortent. Donc voilà, victoire de la Suisse sans encaisser de but en Géorgie, et la cote est un peu plus intéressante que la France puisqu'elle est à 2,25.
Ah, ils ont pas de Mkhitaryan comme peut l'avoir
l'Arménie, voilà, par aussi, exemple. Ouais, c'est ça.
Mes paris, parce que ça fait longtemps que j'avais quitté le monde des paris, malgré notre partenariat avec PMU.fr, j'ai essayé d'esquiver cette épreuve, mais bon, je dois m'y résoudre puisque Christophe n'est pas là. J'ai deux matchs, alors deux matchs qui, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce match 100 fois, c'est Portugal-Ukraine, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu en compétition plein de fois. Le Portugal qui récupère Cristiano Ronaldo, qui revient en sélection cette fois, avec une génération qu'on a déjà évoquée juste avant, génération pas trop mal. Et vu sa série de buts en ce moment et de buts importants, de buts capitaux, je le vois bien premier buteur sur cette rencontre à 3,30. C'est vrai que je pense que le dernier bon souvenir qu'on a de l'Ukraine, Florence, c'est 2013. C'est la génération Konopianka, Yarmolenko qui n'a pas explosé comme on l'attendait. Parce que quand ils étaient au pays ou quand ils étaient en Russie, c'était intéressant. Et depuis, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de mal à s'imposer dans leur club respectif. Je crois que Konopianka, il galère à Schalke, il me semble que c'est ça.
Oui, je crois qu'il y était l'année dernière. Je me demande même s'il a pas bougé.
Je crois qu'il est vu sous le maillot de Schalke récemment. Il joue quasiment le maintien en Allemagne. Et Yarmolenko à Dortmund joue pas beaucoup. Je crois que c'est Dortmund.
Il était à Dortmund l'année dernière aussi. Même situation. Je ne sais même pas s'il a bougé ou pas. Mais c'est vrai qu'il apparaît plus beaucoup dans le 11, quoi. Ça, c'est sûr.
Les deux îles explosives qui avaient bien embêté la France il y a quelques temps de ça ont un peu disparu. Donc, un Cristiano Ronaldo premier buteur à 3,30. Comme ça, j'évite de me prononcer sur le résultat entre le Portugal et l'Ukraine. Je pense que ça peut coller, surtout vu les pourvoyeurs qu'il y a désormais en équipe du Portugal et qui n'étaient pas forcément sélectionnés lors de la Coupe du Monde d'ailleurs. Mon deuxième match, c'est le match entre la Suède et la Roumanie. Alors, j'ai l'impression que tout le monde a fait une bonne Coupe du Monde récemment, mais la Suède avait fait une bonne Coupe du Monde, Florent. Vous étiez plus enthousiaste, toi et Christophe, sur la Suède que moi, donc je vais vous suivre.
Oui, c'est clair. Oui.
Je vais vous suivre et je vais être dans le prolongement de leur belle compétition. Je suis pas sûr que leur leur talent pur collectif soit vraiment prometteur pour les années à venir et un bon signe, mais je pense que contre la Roumanie, quand même, qui certes a des bons résultats, mais contre des adversaires très modestes, je pense que la Suède à domicile, ça devrait le faire. Et vu que la cote était un peu trop faible sur le match en entier, je mise sur Suède à la mi-temps, à 2,15. Donc il va falloir un petit coup de patte de Forsberg. Pourquoi pas une contribution de Kiese-Thelin, Florence, s'il est encore sélectionné.
Je ne sais pas.
Voilà, des joueurs comme ça, ils ont quelques joueurs de talent. Donc la Suède à 2,15 à la mi-temps contre la Roumanie. Je pense qu'en 45 minutes, ils ont le temps d'ouvrir le score. Parce que je pense que si tu es contre la Roumanie à 0-0 à la mi-temps, ça peut être assez dégueulasse ce qui se passe en deuxième mi-temps.
Et voilà. Avant d'en finir sur les paris avec PMU.fr, petite précision, puisqu'on a parlé de Konopianka, il est en effet toujours à Schalke. Et par contre, Yarmolenko n'est plus à Dortmund depuis cet été, puisqu'il a signé à West Ham. Mais malheureusement pour lui, il s'est blessé en tout début de saison, je crois, à l'automne.
Ça se passe pas mieux. Hein.
Ouais, blessure au tendon d'Achille. Donc du coup, voilà, out pour le reste de la saison. Donc il a pu jouer que 6 petits matchs avec West Ham et après, rideau. Voilà.
Parce que la vedette, c'est Felipe Anderson, désormais à West Ham. On repasse aux questions, à la foire aux questions, Florent. Et cette fois, on va se pencher sur la Ligue 1 et sur ton équipe de cœur, sur ton équipe d'enfance, que tu continues à suivre. Qui a changé de coach récemment? Oui. Fini Ricardo, comme c'était, j'ai l'impression que c'est le 8e coach que vous épuisez en quelques années.
Depuis Gillot, qui est le dernier coach à avoir fini son contrat, c'est vrai que Bordeaux les enchaîne à grande vitesse, sachant que la durée de vie moyenne d'un coach sur cette période, ça doit être 18 mois, mais pas beaucoup plus, quoi.
Sagnol, Gourvennec, Ricardo.
Enfin, pas moyenne, mais la durée maximale, plutôt.
Est-ce que j'en oublie entre Sagnol, Ricardo, Gourvennec? Il y en a eu un entre Gourvennec et Ricardo, j'ai l'impression.
Gustavo Poyet.
Ah, Gustavo Poyet, oui, qui était déjà venu à la rescousse. C'est des entraîneurs qui venaient à la rescousse, d'autres qui étaient arrivés à la rescousse.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu ça. Pour la Paolo Souza qui arrive pour un peu plus longtemps, je pense, que les précédents, si ça se passe bien. En tout cas, c'est l'idée avec les nouveaux propriétaires. Ouais. Et Jérémy nous demande sur Twitter, Jérémy BVT1610, il nous demande qu'est-ce qu'on a pensé du premier match de Bordeaux sous Paolo Souza. Alors, je ne l'ai pas vu, mais tu l'as vu plusieurs fois, Florent. Tu l'as même, analysé, tu l'as même coupé, monté, démonté, remonté. Pour un petit post sur Chronique Tactique, ça faisait longtemps.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu as pensé de ce premier match de Bordeaux sous Paulo Souza? Il faut rappeler que c'est un coach qui est réputé pour son amour de la possession de balle, qui a un staff étoffé justement pour bosser sur les principes, les règles d'action individuelles pour avoir une bonne possession de balle et avancer sur le terrain. Est-ce que tu as vu des signes annonciateurs de bonnes choses pour la suite pour Bordeaux sur ce premier match, même si c'est un échantillon très faible? C'était contre Rennes, match nul un partout.
Ouais, on a vu des idées, en tout cas. On a vu des circuits qu'on ne voyait pas vraiment précédemment. On a vu d'abord, en gros, dans les premières minutes, dès le coup d'envoi, on a vu une équipe qui a eu envie de défendre en avançant, qui a voulu presser son adversaire et qui l'a fait pendant 25-30 minutes à une bonne intensité. Devant Camano et Briand, on fait un gros travail, surtout Briand qui avait pour mission de mettre la pression et de couper la relation entre les deux centraux et de mettre la pression sur les centraux dès que Rennes décidait de repasser par derrière pour conserver le ballon. Donc ça, c'était un premier point. Ensuite, lorsque l'équipe arrêtait de presser, elle serait organisée dans un 4-4-1-1 avec Briand entre les deux défenseurs, puis Camano entre les deux milieux qui mettait la pression sur le milieu côté ballon et ensuite deux lignes de 4 replacées. Avec une petite adaptation, c'est que Koundé jouait latéral droit et Sabali milieu droit, avec Pablo Jovanovic dans l'axe et Pundji qui se replaçait à gauche alors que Depréville fermait le côté gauche. Et ce système-là ensuite basculait, lorsque Bordeaux avait la possession, en 3-4-3, avec Koundé et Jovanovic autour de Pablo. Un milieu de terrain avec Basic et Otavio assez classique. Et ensuite, un carré. En fait, Basic, Otavio devant les deux milieux rennais et Camano Depréville qui se plaçait derrière les milieux rennais. Et ensuite, sur les côtés, tu avais Sabali à droite pour apporter la largeur, Pundji à gauche et Briand en pointe. Au final, ce système-là, c'est exactement le même système qu'il utilisait et qu'il avait mis en place à la Fiorentina. Et à l'époque, par exemple, dans le rôle de Koundé, c'était un joueur comme Roncaglia qui était capable de défendre en latéral et ensuite d'être le troisième central. Tuchel l'a fait aussi avec Piszczek lorsqu'il avait Dortmund. Donc c'est ce genre de système un peu hybride, mais
Avec Kerrer également à Paris, hein, qui l'a
ouais,
fait
Kerrer
aussi.
à Paris, c'est vrai, mais qui a plutôt bien fonctionné dans les idées. Après, il y a eu un problème, il y a plusieurs questions qui se posent. C'est pour certains joueurs, est-ce qu'ils vont être capables de jouer dans ce système-là? Parce que là, au bout de 90 minutes, évidemment, il y avait certains soucis au niveau des prises de balles, au niveau de l'orientation du corps, au niveau des réflexes pour trouver un joueur libre. Enfin bref, il y avait beaucoup de choses à ajuster, mais c'est vrai que c'était intéressant de voir au moins ces idées-là posées sur le terrain. Et ensuite se pose la deuxième question, c'est celle de l'intensité, parce que au bout de 50 minutes et à partir du moment où l'équipe n'avait plus le jus à la fois pour repartir de derrière, se rendre disponible au milieu de terrain, mais aussi pressé. À partir du moment où elle n'a plus eu le ballon, elle a eu beaucoup de mal à bien défendre. Et Rennes s'est pas mal régalé en jouant dans le dos de Koundé ou dans le dos de Pundji sur les côtés pour trouver des décalages. Et heureusement dans la surface, Jovanovic et Pablo et Koundé sont restés assez maîtres de leur sujet jusqu'à ce qu'ils prennent le but dans les arrêts de jeu, mais c'était un coup de pied arrêté.
La condition physique des joueurs, c'est un truc qu'il avait ciblé assez vite, il me semble, quand il est arrivé. Il avait dit que les joueurs n'étaient pas en bonne condition physique, ce qui est, quand j'ai lu la réaction des Bordelais, ce qui est vrai que c'est assez paradoxal quand ton entraîneur,
Il est un prépa physique.
dans les faits, est un prépa physique. Parce que Ricardo n'était plus vraiment l'entraîneur de Bordeaux. Là, je lisais les stats de la rencontre. Bordeaux a fini à 48% de possession. Est-ce que c'est quelque chose qui s'explique par le fait d'avoir mené au score, Florent, ou comment t'expliques cette stat-là, alors que Souza quand même arrive pour que l'équipe prenne le ballon et le monopolise à terme.
Bah, si tu peux regarder la possession sur la première mi-temps ou même sur la première demi-heure, je pense que tu trouveras pas la même chose du tout.
Ouais, jusqu'à la à peu près la bah jusqu'à la 39e, Bordeaux est devant, ça s'équilibre à peu près avant la mi-temps. Bordeaux repasse devant au moment du 1-0 et ensuite repasse derrière.
Oui, donc oui, le
Mais
but.
jusqu'au 1-0, je pense que Bordeaux devait peut-être être à 55 ou un truc comme ça,
Ouais,
quoi.
voilà, mais le but explique en partie, je pense, le recul. Il y a eu aussi les changements qui ont été faits parce que Plasil a remplacé, je ne sais plus, mais
Camano, Plasil remplace Camano à la
voilà.
64e, Palencia remplace Sabali à la
Et
85e et
Sankaré
Sankaré
brillant.
remplace Briand juste pour la dernière minute, juste pour voir le but de Mbagnon.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui. Je pense que le scénario du match l'explique, mais aussi la condition physique, parce que c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils ont plus vraiment eu les jambes à la fois pour presser, mais aussi pour contre-attaquer, ressortir en nombre, en transition, par exemple. C'était très souvent un ou deux joueurs qui sortaient, mais pas plus, ce qui fait que les Rennais pouvaient gérer assez facilement la transition défensive. Donc il y a eu assez peu de danger pour mettre un deuxième but de situation. Donc je pense que ça explique aussi en partie pourquoi la possession s'est inversée dans le final. Mais c'est vrai que globalement, la première demi-heure, il y a quand même pas mal d'enseignements, même si il y a rien de parfait. On voit au moins des idées, et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on voyait pas d'idées de ce genre, ou même d'idées tout court, dans les séquences offensives, en fait. Parce que pendant des années, en tout cas sur les derniers mois, Bordeaux se reposait beaucoup sur la capacité de ses ailiers à faire beaucoup de différence. Malcolm qui va repiquer intérieur, fixer 3-4 joueurs et ensuite libérer dans un espace. Camano qui va faire la même chose de l'autre côté, mais qui lui va choisir uniquement d'enrouler, de tenter une frappe de 20 mètres. Je schématise, mais c'était un peu ça. Ça s'est accentué aussi avec Kalu et Karamo ensuite, qui font encore moins jouer les autres que ne le faisait Camano et surtout que le faisait Malcolm. Et du coup, là, en plus, bah, tu te retrouves avec un système, en tout cas si Paul Sousa persiste avec celui-là, où en possession, il n'y a plus d'ailier. Donc forcément, ça va changer beaucoup de choses, tant dans les habitudes des joueurs.
Et on peut penser à Camano, par
On
exemple.
peut penser à Camano, par exemple. On peut aussi penser à Depréville, qui peut-être des trois offensifs est celui qui fait le meilleur match.
Et c'est sans doute celui qui profitera le plus de ce recentrage et de cette proximité des joueurs à l'intérieur, parce qu'il jouait plus à l'intérieur à Reims qu'il ne joue à Bordeaux depuis qu'il est arrivé.
Voilà, c'est très possible que ce système-là lui sied beaucoup plus, sachant qu'en plus physiquement c'est un de ceux qui a le mieux terminé. Donc c'est peut-être un de ceux qui est le plus en jambes et qui du coup va avoir 9-10 matchs pour essayer de s'imposer dans
Ça
cette nouvelle équipe.
veut pas toujours dire grand-chose, mais sur Ouscorne, c'est le deuxième avec la meilleure note. Bon,
Ouais, non, c'est pas
il
surprenant.
a tiré quand même 6 fois.
C'est pas surprenant, il fait un bon match,
Il réussit 4 dribbles, ce qui est quand même pas mal.
Voilà, après, même Pounjé fait plutôt un bon match à gauche. Il y a eu de bonnes surprises sur cette première. Maintenant, voilà, c'était une première, c'était 90 minutes. Je crois que le prochain match de Bordeaux, c'est contre Amiens, à l'extérieur. Et j'imagine que après être sorti de ce premier match, assez satisfait a priori vu sa conférence de presse, j'imagine que Paulo Sousa va rester avec ce système-là. Et ça sera intéressant de les voir face à Amiens, qui sera une équipe qui les attendra aussi plus bas. Peut-être de manière encore plus compacte que Rennes, qui est une équipe quand même qui joue plutôt bien la zone. Là, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Il y aura plus peut-être de problèmes d'équilibre, parce que c'est vrai que sur les transitions défensives, le milieu Otavio Basic, je suis pas encore très convaincu de sa capacité à bien couper tout ça, à bien verrouiller dans le camp adverse. Donc voilà, on va voir nouveau test contre Amiens, contre un adversaire très différent et qui opposera d'autres problèmes. Donc ce sera l'occasion de roder le système et de revoir aussi Jules Koundé à ce poste hybride où pour une première il a été très bon comme très souvent et où il pourrait prendre énormément de valeur s'il réussit à devenir un joueur hybride parce que c'est vrai que la polyvalence à terme, dans le football actuel, c'est peut-être quelque chose qui permet de faire exploser la valeur de joueurs, particulièrement en défense. Tu parlais de Kerrer tout à l'heure, c'est un chemin qu'il pourrait prendre s'il continue, à jouer dans ce système-là. Voilà.
Ouais, bah, de toute façon, c'est un central avec un gabarit de latéral, donc
C'est vrai
c'est assez
aussi.
logique comme évolution. Et je pense que Bouba Camara est capable d'avoir à peu près la
Il a.
même. Les deux sont pas mal techniquement. Et ce qui est quand même positif dans le match de Bordeaux pour une équipe donc on attend maintenant pour sa maîtrise, sa possession, c'est que tu finis avec plus de tirs que l'adversaire, 14 à 10, et tu finis à 1,52 contre 0,84 d'expected goal. Donc c'est pour un. On n'est pas tombé dans la conservation stérile
Ouais,
pour faire genre, quoi.
après le 1,52, on va le calmer parce qu'en fait, il doit y avoir 0, 0,60 et 0,80 sur la même action, c'est-à-dire le but de
Ouais,
Camano.
ouais, ouais. T'as 0,80 et t'as même 0,80 et 0,88 sur la même
Ouais,
action, pour
donc
te dire.
voilà, ça explique aussi
Mais
l'écart.
t'as quand même sinon 6 tirs dans la surface. Donc
Oui,
c'est.
non, mais il y a eu des situations intéressantes, mais c'est vrai que il y a eu pas mal de décalages qui ont été créés en amont, mais après ça manquait soit de vivacité, soit de fluidité dans les enchaînements, fluidité aussi dans les passes pour voir les choses plus vite. Mais ça viendra avec des automatismes. Truc tout bête par exemple, et on pourra passer à autre chose après. Mais quand tu vas te retrouver dans une situation avec le défenseur gauche par exemple qui va porter la balle, qui va avancer et qui va chercher une solution à l'intérieur. Face à lui, donc là c'était Jovanovic, face à lui il avait Otavio dans sa zone devant lui et André, le milieu de Rennes, se retrouver entre deux situations, soit je sors sur Ottavio, soit je coupe la ligne de passe vers Depréville, qui est le mec dans son dos. Et très souvent, Bordeaux avait des situations où, par exemple, André va choisir d'aller couper la ligne de passe, et du coup, Ottavio se retrouve libre, mais Jovanovic ne peut pas le toucher directement, parce qu'il a l'attaquant René qui vient sur lui et qui coupe la relation. Par contre, en deux passes, tu passes la balle à ton latéral qui la remet à ton milieu, et là, ton milieu est libre et peut avancer. Tu vois, juste avoir des automatismes et créer par tout simplement des triangles pour jouer et profiter des situations où l'adversaire est bloqué entre deux, et à partir du moment où il choisit une des solutions à défendre, et ben ça libère l'autre, et trouver un moyen de trouver cette solution très vite. Je sais pas si été clair, mais
non, c'est intéressant qu'il fasse ça, parce que c'est assez rare, ce carré à l'intérieur en France.
Ouais.
Bon, y a Mokedem qui le fait en national.
Vira l'a tenté à Nîmes aussi.
Ouais, alors à l'étranger, il y a pas mal d'exemples qui ont fonctionné. Liverpool le faisait avec Rodgers, où t'avais deux milieux et t'avais ensuite Sterling, Coutinho derrière Sturridge, par exemple. City l'a fait aussi. Chelsea le faisait avec Conte, où t'avais Hazard et Willian, ou Hazard et Pedro à l'intérieur, et t'avais Conte et Matic. Donc c'était quelque chose qui fonctionnait assez bien, parce que ça met à la fois dans l'incertitude les deux milieux actuels adverses, qui savent pas sur qui ils doivent sortir, et qui met aussi les deux centraux dans l'incertitude, parce qu'ils ont un attaquant en avant-centre qui les occupe, et si eux sortent, ou si un des deux sort, bah l'autre se retrouve en un contre un, et tu te retrouveras assez facilement en surnombre à l'intérieur. Et à ce moment-là, alors que forcément sur les côtés, tu auras moins de richesse dans les combinaisons, mais souvent tu vas trouver des joueurs lancés qui peuvent en une touche,
Ou sur
un contre un, faire des différences un peu plus facilement que parfois l'obsession en France de passer par les couloirs et de se retrouver dans des espaces rikiki pour combiner.
Mais moi,
qu'on n'a pas toujours des joueurs très, très doués techniquement à ces postes-là.
D'un point de vue très personnel, c'est mon système favori. Donc je suis très content de le voir développé par le coach de mon club. Et du coup, je vais suivre ça d'assez près dans les prochaines semaines. Voilà.
Merci Flo pour ce point bordelais. De toute façon, on reviendra sur Paulo Sousa d'ici la fin de la saison, sans doute. Et puis surtout la saison prochaine, puisque c'est le mercato aussi qui décidera de ce que pourra faire ce coach à Bordeaux. On va passer à une question qui me concerne, qui m'a été envoyée presque directement, une question de Pécho Frio, SG, donc un fan du PSG, qui me demande de développer mon idée de Mbappé numéro 9. En précisant, entre parenthèses, il a raison. On avait débattu un petit peu sur Twitter avec Piotr de ça, on n'était pas du tout d'accord. Il me demande qui je vois pour l'accompagner la saison prochaine. Alors ça, je ne saurais pas y répondre maintenant, mais sur Mbappé numéro 9, parce que c'est un truc qui me tient à cœur et que j'avais déjà évoqué sur Twitter ou je sais plus, dans un podcast il n'y a pas longtemps. Mais on en avait parlé quand il jouait avec Emery, où il jouait tout le temps couloir droit. Oui. Je trouvais que c'était du gâchis de le réduire à ce couloir-là. Alors c'est aussi parce qu'il a joué dans le couloir avec l'équipe de France que la France a été championne du monde, même s'il avait quand même pas mal de liberté dans l'axe, puisque Griezmann décrochait tout le temps et que Giroud était plus un point de fixation qu'une cible. Je pense que vu ses qualités de déviation, de remise, d'intelligence de jeu, de décrochage, d'appel contre appel, de prise de profondeur, il a une panoplie trop large pour qu'on le cantonne à un côté. Je pense que même que le mettre sur le côté lui fait du mal. Et je vais m'expliquer, c'est un excellent joueur de déséquilibre, de percussion, mais je suis pas sûr que ce soit à l'arrêt, comme peut l'être un Aymar, un excellent dribbleur. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Florent,
mais je trouve que
quand il est trempé en un contre un contre un défenseur qui le cadre, qui est placé, qui est pas déséquilibré, déstabilisé, qui est encore dans un bloc qui est en place, je trouve que sa richesse, sa panoplie de dribble est moins large que d'autres joueurs, même par rapport à un Dembélé par exemple. À l'arrêt, il est capable de faire une différence. Il s'appuie surtout sur sa vitesse, et quand il joue contre des blocs bas ou des blocs médians juste sur sa vitesse, ça a tendance à devenir prévisible, et je trouve que c'est le limiter et faire une caricature de lui, alors que quand tu le mets dans l'axe, il a des possibilités beaucoup plus variées. On m'a dit, oui, il faut qu'il joue dans une attaque à deux. Bah, par exemple, si tu le mets en pointe d'une équipe qui a un carré dans l'axe, il aura des soutiens,
il aura
des joueurs proches de lui, c'est un peu le truc qu'on avait sur la casette à un moment où tout le monde disait, ouais, mais il peut pas jouer seul devant. C'est pas qu'il peut pas jouer seul devant, c'est que s'il faut avoir que des joueurs qui soient à l'intérieur proches de lui pour combiner avec lui. C'est pas un système pour le coup, c'est plus est-ce que tu mets une proximité entre les joueurs à l'intérieur. Alors je sais pas si tu es du même avis que moi, Florent, parce que c'est vrai que c'est un débat en ce moment au PSG sur Mbappé numéro 9, c'est aussi lié au rôle de Cavani et à son avenir. Mais j'ai l'impression que malgré tous les succès qu'il a à droite, et il joue très bien à droite, hein, tu vois, tu mets Sané à gauche, Mbappé à droite, je suis sûr que Guardiola il se régale, parce qu'à droite il peut faire tout ce que sait faire Sterling, notamment dans les déplacements. Mais je pense qu'il est capable de plus, et j'ai l'impression que si on le laisse à droite longtemps, ça va devenir un de ces ailiers français, bon, beaucoup plus fort, hein, mais ça va devenir un de ces ailiers français qui percute uniquement à travers sa vitesse, un peu comme peut le faire Coman parfois.
Non, mais je pense que il ne va pas. Là, il est installé numéro 9. On verra dans quel état va revenir Cavani après la trêve internationale, pardon. Mais je ne pense pas qu'il rebouge et qu'il se retrouve vraiment excentré à un moment donné, comme il pouvait l'être avec Emery.
C'est un peu la carrière de Thierry Henry aussi qui avait connu ça quand il était en Italie, il était aussi sur le côté à la Juve et que finalement c'est dans l'axe
Oui, non,
qu'il a
mais
pris sa pleine mesure.
en plus là, tu prenais l'exemple de s'il jouait avec Guardiola, s'il jouait sur un côté, il se régalerait à droite avec Sané à gauche et Agüero en pointe. Mais est-ce qu'il serait moins compétent pour jouer neuf qu'Agüero dans le système
Non,
de
non, non,
City?
non, je
Voilà.
pense même qu'il serait très très bon dans le système de City parce que les centres en retrait, il adore ça et lui, il se déplace très bien. Enfin, il lit bien le jeu. Alors, certes, dans la surface, il a des progrès à faire, mais j'ai lu, il est pas bon joueur de tête. Les meilleures équipes, enfin, les équipes qui ont réussi sur le plan européen, à l'exception du Real avec Ronaldo,
Elle centre pas.
Liverpool et City récemment, ça centre pas en l'air. Hein.
Oui, non mais moi je vois pas de en fait de c'est sûr que si tu imagines Mbappé neuf dans un système avec deux ailiers excentrés avec un pied gauche à gauche et un pied droit à droite
Oui.
et des milieux qui se projettent très peu, bon, c'est sûr qu'il va avoir du mal à exister. Mais aujourd'hui dans des équipes comme le PSG, c'est-à-dire des équipes qui sont dominatrices la plupart du temps, il n'y a aucune équipe de ce genre-là qui joue de cette manière-là. Bon, à part peut-être les équipes qui ont Ronaldo en pointe
Ouais.
dernièrement. Mais et encore, même celle-là, Ronaldo avait toujours un appui à côté. Il y avait Benzema.
Ouais, il y a Mandzukic, tu vois, quelqu'un qui attire pour qu'ensuite il soit plus libre.
Oui, il se retrouve jamais totalement esseulé à l'intérieur. Donc même cette situation-là de se dire Mbappé seul neuf sans soutien autour. En effet, il ne faut pas, mais en fait, ça n'arrive jamais aujourd'hui. Il y a quasiment plus aucun neuf qui joue de cette manière-là, détaché du reste du bloc, sur lequel on envoyait des longs ballons, à la manière de Drogba, dans les dernières années de son Chelsea, quoi. Ça n'existe plus aujourd'hui. Du coup, je ne vois pas de contre-indication à ce que Mbappé ne joue numéro 9 plutôt. Après, c'est vrai que sur ses défauts actuels, il y a aussi quelque chose. Je crois que c'est Xavi qui en parlait quand il parlait de lui. Alors beaucoup de gens s'enflamment parce que c'est Xavi qui dit ça, et c'est vrai qu'il a une vision assez arrêtée de
Oui,
ce que doit être le foot.
parce que quand Xavi parle de l'intelligence d'un joueur ou de l'intelligence déficiente d'un joueur, c'est toujours quelqu'un qui est noir par hasard. Enfin, donc c'est pour ça que c'est un peu perturbant aussi.
C'est
Parce qu'il
vrai
l'avait
aussi.
dit, enfin, il l'a dit de. Quand il le dit, il le dit pas de Jesús Navas qui a le même cerveau que des joueurs de la Ligue 2, par exemple, tu
Que
vois, dans les prises
Asensio?
de décision.
Tu vas citer Asensio? Non.
Oui, non, mais par exemple, voilà. Donc,
Mais
on a déjà évoqué ces biais un peu racistes parfois dans le football. Il faut. Xavi, il a quand même. Bon, ça tombe toujours sur les mêmes. Hein.
c'est vrai. Mais ce qui lui manque, là où il a peut-être raison, c'est son manque de pause dans ce qu'il fait. Il va. Alors, est-ce que c'est le réflexe parce qu'il a passé beaucoup de temps sur un côté et qu'il cherche avant tout à faire la différence avec sa vitesse parce que, comme tu le disais, il a moins de dribble qu'un Neymar, etc., lorsqu'il est arrêté, ou qu'un Dembélé.
Ouais, ou qu'un
Mais.
Eden Hazard qui, par exemple, sur les premiers mètres, peut-être est meilleur.
Ouais. Puis il développe peut-être plus de puissance sur les premiers mètres qu'un Mbappé, qui, lui, c'est plus sur la
Ouais.
deuxième accélération, mais c'est quand il va être à pleine vitesse qu'il va vraiment faire une diff, quoi. Mais bref, sur ces situations-là, il manque peut-être, en effet, le moment où, en fait, il va accélérer, il va arriver face au défenseur, et là, il va choisir la meilleure option. Il va prendre le temps de s'arrêter pour fixer un peu, de s'arrêter, pas de s'arrêter net, mais de ralentir un peu pour choisir la meilleure solution par rapport à un défenseur. Je crois que c'est face à Manchester United, il a un duel à jouer avec Smalling, et Smalling s'oriente déjà vers je crois que Mbappé arrive du côté gauche, et
Oui, je me
Smalling
rappelle de ça.
anticipe
Ouais.
déjà le fait qu'il va essayer de le prendre de vitesse sur sa droite pour le défenseur. Et du coup là, Mbappé, s'il prend le temps, s'il prend la pause, s'il ralentit, et ben avec un simple crochet du droit, il met dans le vent en fait, enfin un crochet externe pour se mettre sur son pied droit et rentrer intérieur, et il s'ouvre peut-être le chemin du but. C'est peut-être sur ce genre de choses-là aujourd'hui qu'il a quelque chose à améliorer, mais là on ne parle pas forcément d'un truc de pur numéro 9, mais plus de quelque chose qui peut se faire à tous les coins du terrain, quoi, qui n'en tient.
Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut le sortir du côté, parce que sur le côté, contre 90% des latéraux, il lui suffira de pousser pour faire la différence. Et je pense que pour son évolution, c'est pas la meilleure chose. Et je parlais de Xavi et de ses critiques un peu toujours ciblées sur les mêmes. C'est parce qu'à un moment, il parlait de l'intelligence de jeu de Mbappé. Il avait dit qu'il prenait pas des bonnes décisions, il n'était pas intelligent. Alors que quand tu fais le bilan des joueurs qui, à 20 ans, jouent avec la même intelligence que Mbappé, j'en compte pas beaucoup. Je pense que, bah, par exemple, tu parlais d'Asensio qui a 2 ou 3 ans de plus.
Ouais, 96, ouais, Asensio, je crois.
Il progresse pas depuis qu'il a percé, et c'est toujours le même joueur. Il y a plein d'autres joueurs que tu peux citer comme ça, des ailiers. C'est un peu la marotte de Christophe sur les ailiers, où c'est très difficile de mesurer leur talent. Est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs que les ailiers qui jouent en Ligue 2 et qui vont aussi vite? Bref, ça c'est ce qu'ils développent souvent. Mais bon, Mbappé, c'est quand même un des mecs qui prend les décisions les plus matures et les plus justes pour un attaquant ailier de 20 ans. Et même il y a déjà 2 ans, ses prises de décision étaient ce qui sautait le plus aux yeux en dehors de sa vitesse, évidemment.
Ouais, exactement, ouais. C'est vrai que pour ceux aujourd'hui qui se disent que Mbappé croque énormément, il faut se rappeler sa première saison à Monaco où il est exceptionnel justement à la finition.
Oui,
il contribue énormément au fait que Monaco soit en grande réussite. Donc, et que ce genre de choses, c'est cyclique et que ça va peut-être revenir sur une, peut-être sur la fin de saison ou sur une saison suivante, quoi.
Oui, mais il y avait eu un très bon article là-dessus sur le fait que, par exemple, les meilleurs attaquants rangent chaque occasion, qui est un espèce de lieu commun, mais qui est complètement prouvé faux par les statistiques, où Messi, par exemple, est un des seuls qui est à peu près à 50% de grosses occasions converties,
ouais,
par exemple. Alors que c'est... Tu vois, par exemple, Mbappé, cette année, il est à 23-46 d'expected goals, il est à 26 buts. Donc peut-être qu'on compte tous les buts où, en effet, il est en contre 1 et il foire, et là-dessus, il a de beaux progrès à faire, mais aussi tous les buts où il est dans un angle un peu fermé,
ouais, c'est ça.
Et ça a l'air facile, parce qu'il a une bonne frappe dans ces situations-là. Donc il faut aussi faire la part des choses et se rendre compte que même les meilleurs attaquants du monde ratent la moitié de leurs grosses occasions. C'est un truc qui ne changera pas, à moins qu'on fasse des joueurs robots qui réfléchissent encore plus vite et qui ont une vitesse d'exécution dingue. Une question qui est un peu liée au développement de Mbappé, Florent, c'est une question de Florent Vincent sur Twitter. Et quand je te l'ai posée avant qu'on enregistre, tu as voulu la retenir absolument. Et d'ailleurs, elle me plaît aussi. Il nous demande si la musculation réduit les capacités techniques des joueurs. C'est vrai qu'on a l'impression que Mbappé, par exemple, ces derniers mois, depuis la Coupe du Monde et un peu avant, a pris du muscle. Il y a d'autres cas de joueurs comme ça. Yoann Gourcuff à Lyon, je sais pas pour toi, mais moi ça m'avait frappé. Parce qu'à Bordeaux, il était tout mince, tout fin, et quand il est arrivé à Lyon 2 mois plus tard, il avait des épaules de bûcheron. Il y a Kaka qui avait eu un peu le même truc. Alors il y a évidemment Gareth Bale là, au Real, qui d'ailleurs se blesse tout le temps depuis. Donc ouais, c'est peut-être lié, parce que plus t'as de
peut-être
masse musculaire, plus c'est quand même plus, enfin, c'est lourd à porter. Est-ce que tu as un avis là-dessus? On sait aussi que la musculation cache parfois des habitudes alimentaires mauvaises.
Oui, ça, tu en avais parlé pour Lukaku, notamment, il me semble. Enfin, c'était une hypothèse de ta part pour éviter les poursuites. Mais oui, non, forcément, moi, j'avais surtout entendu parler de ça lorsqu'on se retrouvait avec des joueurs en post-formation, c'est-à-dire qui étaient aux portes de l'équipe professionnelle. Là, je parle à Bordeaux, sans mentionner quelle époque. Mais à cette époque-là, en fait, il y avait des joueurs qui avaient des profils très, on va dire, hispanisants. C'était des milieux de terrain, assez agiles, assez vifs, aussi par l'esprit, mais aussi par la technique. Mais pour pouvoir franchir le palier de l'équipe réserve et avoir plus de temps de jeu en première, il fallait forcément passer par la période muscu, et par beaucoup de muscu, c'est-à-dire des séquences de musculation qui ne collaient pas forcément avec leur qualité et qui leur ont peut-être fait perdre ce qui faisait leur qualité technique, c'est-à-dire ce qui leur faisait perdre de l'agilité, qui leur faisait perdre de la vélocité aussi parfois, et qui aussi parfois, comme tu le mentionnais pour Gourcuff ou pour Kaka, voire pour Bale, qui les rendent forcément plus fragiles aussi, parce que les genoux, par exemple, sont moins solides.
Ils supportent plus de poids, donc voilà, forcément.
Exactement. Là, on pourrait parler de l'exemple le plus évident dans l'histoire, c'est quand même Ronaldo.
Ouais.
Qui, quand il arrive en Europe et signe au PSV, est quand même un joueur assez fin.
Ah, après, il a toujours eu des cuissots assez dingues, et c'est ça qui lui donnait aussi sa puissance.
Ouais,
mais c'est vrai que ça a forcé un peu après.
Ils sont devenus beaucoup plus dingues après son année au PSV, quand même. Il y a une vraie différence entre le Ronaldo qui arrive si vous cherchez sur YouTube des images du Ronaldo au Cruzeiro ou lors de sa première saison au PSV, et puis le Ronaldo qui est à Barcelone, il a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas combien de kilos, mais c'est quand même assez, assez visible. Et si ses genoux lâchent derrière, c'est pas surprenant, quoi.
Tu vois, un qui n'a pas trop changé, je trouve qu'on devrait s'y intéresser, hein, parce qu'en plus, quand tu le vois torse nu, il ressemble pas à grand-chose. Par rapport à mon corps, oui, mais enfin, par rapport au plus musclé du foot, non. Mais par exemple, Neymar,
oui, c'est
quand
vrai.
Tu le vois torse nu, il n'a pas de... Tu vois, on dirait les footballeurs des fins des années 90, tu sais. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément beaucoup d'abdos, il n'est pas super musclé, il est toujours fin. Je ne pense pas qu'il ait pris beaucoup de masse musculaire, il doit aller en prendre un peu quand même, mais depuis qu'il est arrivé du Brésil, il a à peu près la même silhouette. Alors que tu vois d'autres qui prennent des épaules, bah Lukaku il a pris aussi, hein, depuis quelques années Lukaku, hein, parce que le Lukaku qui arrive en Angleterre, il est déjà costaud, mais celui qui est aujourd'hui, il a des pecs et des épaules, c'est assez flippant. Hein. Il a poussé et d'ailleurs je trouve qu'il est alourdi sur le terrain. Je me demande si Mohamed Salah il y a pas un petit côté comme ça aussi. Parce qu'il me semble avoir perdu un peu de vitesse et voilà. Et quand tu vois les joueurs les plus rapides et les plus agiles, c'est toujours des mecs qui ont parfois des allures de brindilles. Hein. Ousmane Dembélé c'est un peu le même.
Oui.
Le bilan, après, il y a les profils vraiment différents. Ça, c'est des espèces de cubes. Messi un peu comme ça, Fekir est un peu comme ça.
Ouais.
Là, c'est vraiment des profils différents, mais c'est parce que les mecs font 1m70.
Mais ça, de toute façon, il y a aucune vérité. C'est-à-dire qu'il y a certains joueurs, c'est bateau de dire ça, mais la clé pour ce genre de choses, c'est surtout, dès le départ, de réussir à identifier quel est le profil, le morphotype de ce joueur. Et du coup ensuite de l'amener vers un programme spécialisé, quoi, qui lui permettra à la fois de rester dans la meilleure forme possible, mais tout en conservant ce qui fait sa qualité première en tant que footballeur, quoi. Parce que c'est sûr que si t'avais voulu passer un joueur comme là j'exagère, hein, parce que mais si t'avais voulu passer un joueur comme Iniesta à la moulinette d'une séance de muscu ou de plusieurs séances de muscu à la française par exemple, t'aurais pas eu le même joueur à l'arrivée, c'est certain. Il aurait peut-être gardé la même vivacité d'esprit, forcément, sans doute même, mais est-ce qu'il aurait gardé la même agilité pour réussir à faire les enchaînements qu'il était capable de faire avec le ballon, on peut en douter. Ou alors ça aurait été aussi peut-être plus compliqué sur le plan des blessures, alors qu'au final il a quand même traversé une carrière où il n'a pas eu de très très gros pépins physiques, il me semble. Donc voilà, la clé de toute façon c'est ça, pour que les joueurs puissent conserver toutes leurs qualités, il faut avant tout les connaître parfaitement. Et là ensuite, de toute façon, dans tous les gros clubs, je pense, en tout cas de ceux dont j'ai pu entendre parler à ce niveau-là et sur ce qui est de la préparation physique, la clé, c'est les programmes individualisés pour chacun et adaptés à chacun.
Mais d'ailleurs, si tu fais une comparaison NBA pour ne pas changer, tu penses à deux des mecs les plus agiles, Kyrie Irving, pardon. Tu vois leur corps, c'est quand même des mecs qui sont chétifs par rapport à ceux de leur profession. Et d'ailleurs, Curry avait dit que dans une interview il y a quelques années qu'il avait pris un peu de muscle pour tenir un peu plus au contact, mais qu'il voulait pas en prendre trop parce que sinon il allait perdre toute son agilité et au final.
Et sa mécanique allait, du coup de
voilà,
shoot.
Ça allait plutôt être le même joueur et il serait plus aussi décontracté et relâché au moment de shooter parce que tu portes plus de poids, donc forcément t'as pas la même vitesse d'exécution sur des gestes où t'as pas besoin forcément de beaucoup de muscles, mais surtout de souplesse sur certains gestes. Et Neymar, je pense que c'est un peu le même genre de joueur. On passe à une question sur l'OM. On a parlé du PSG, on a parlé de Bordeaux, on a cité des joueurs lyonnais. Une question sur l'OM, une question pour tous les deux, Florent, parce qu'on a vu leur match récemment.
Ouais.
Question de SPPP11 sur Twitter qui nous demande de nous donner notre avis sur la nouvelle charnière de l'OM. On avait évoqué l'OM collectivement il y a quelques semaines, je crois, il y a un ou deux épisodes, notamment cet OM rajeuni. Et là, ouais, il demande ce qu'on pense de la charnière Camara-Kalaitachar. Pensez-vous qu'ils peuvent vraiment avoir un avenir au niveau européen? J'ai mon avis, parce que j'ai récemment regardé pas mal de matchs de l'OM, et notamment j'ai regardé les deux jeunes défenseurs centraux. Quel est le tien, Florent? On ne l'avait pas forcément eu.
Si, parce que quand j'avais parlé des jeunes qui avaient enfin pris la main, je les avais mentionnés. Après, dernièrement, c'est vrai que le fait de les voir face à Paris, c'était pas forcément la meilleure solution pour les voir sous leur meilleur jour, parce que la situation était compliquée avec un OM qui essayait de presser, mais du coup des défenseurs qui étaient assez vite exposés quand même, je trouvais. même si dans les anticipations et dans les sorties, je crois que c'est Camara qui a fait un match en étant très agressif.
Avec Ballon, ils avaient montré des choses assez intéressantes sur la première demi-heure, en essayant de ressortir proprement court. Ça a changé des plans de Garcia lors des matchs précédents contre le PSG, puis après ça a explosé.
Ouais. Oui, non, mais les deux, de toute façon, Caleta-Char, on l'avait vu déjà avec Salzbourg l'année dernière, il me semble, puisque l'OM le recrute ouais. Là-bas, il avait fait une très belle campagne, il n'y avait pas grand-chose à redire, c'était un jeune défenseur complet, il a eu du mal à franchir le cap mentalement, là maintenant il a l'air lancé, il n'y a pas de raison qu'il sorte de l'équipe, et Camara, de toute façon, ça fait quand même quelques mois maintenant, je ne vais pas dire années, mais ça fait quand même pas mal de temps que les Marseillais en parlent, que ce soit sur Twitter ou même ailleurs, et c'est vrai que quand on l'a vu, il y a une petite guéguerre qui se crée entre qui est celui qui ira le plus haut entre Koundé et Camara, puisque je crois qu'ils sont de la même année. Je crois que les deux sont de 98.
C'est vraiment les mêmes joueurs. Hein.
C'est vraiment voilà, le même type de joueur. Donc, qu'ils aillent le plus haut possible et qu'ils tirent la bourre jusqu'au bout, oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, Camara est peut-être plus polyvalent, puisqu'il a quand même été amené à jouer à d'autres postes, même si c'était souvent pour dépanner et quasiment par défaut parce qu'il n'y avait rien d'autre à mettre à ces postes-là, que ce soit sur les côtés, il me semble qu'il a fait des piges aussi au milieu de terrain. Mais le fait de le voir stabilisé en défense, bah ça ne fait que confirmer pour l'instant ce qu'on a vu sur les premiers mois, c'est-à-dire un jeune joueur déjà, un jeune joueur certes, mais déjà très mature et capable aussi de répondre présent physiquement, même si sur ce point-là, je pense que Koundé a une légère longueur d'avance aujourd'hui, parce qu'il est en train de se construire un physique assez
monstrueux. Il a un an de plus aussi, Florent.
Ah voilà, 99 alors Camara.
Ouais, tous les deux de novembre, mais Camara 99 et Koundé 98.
Et ben, ils vont se suivre pendant quelques temps, et peut-être que d'ici 4-5 ans, ils se suivront en équipe de France, ou alors ils chercheront à choper le deuxième spot de défenseur droit derrière Varane, quoi. De central droit plutôt derrière Varane.
Je pense que ce qui est bien, c'est que ça peut aussi inspirer les autres centres de formation sur le poste de central.
Sur la taille, oui.
On avait parlé lors de la Coupe du Monde avec Umtiti qui fait un 83, si je ne m'abuse. Là, c'est deux gars qui font quand même 1,78 et qui sont titulaires en Ligue 1. Et qui défensivement, en plus, sont pas des fardeaux pour leur équipe. Au contraire, c'est plutôt parfois leur taille leur permet justement de rivaliser sur la vitesse, là où d'autres défenseurs sont plus en difficulté. Et Dieu sait si la Ligue 1 est quand même remplie d'attaquants qui misent surtout sur la vitesse, parfois plus que sur autre chose. Donc ça peut inspirer d'autres. Parce que parfois dans les centres, et je pense que tu le sais aussi bien que moi, et même dans des clubs comme Bordeaux, on recrute d'abord la taille et on leur donnera des pieds lors de la formation.
Oui.
Ça arrive assez souvent, et même dans des clubs réputés pour leur projet de jeu ou pour les profils qu'ils choisissent. Donc là, si ça peut équilibrer un peu, il y a encore des défenseurs qui passent à côté d'une carrière parce qu'ils sont jugés trop petits, parce que la taille, ça passe pas. Alors sur le poste de gardien, je comprends, parce que maintenant, avec la vitesse des ballons, c'est vrai que si tu fais 1,78 et que tu dois taper une extension de fou pour aller toucher le ballon en haut, c'est compliqué. D'ailleurs, on voit très peu de profils à la Jeannot ou à la Landreau ces dernières années. J'ai l'impression que c'est terminé. Des gardiens de petite taille, je ne sais pas si tu en as un en tête, Florent. Récemment, je ne vois pas. Mais des centraux, ça a l'air de fonctionner. Donc, en plus, c'est Marseille, il y a les deux, là, les deux profils. Et puis sur Caleta-Char, juste dire que quand tu es passé à Salzbourg, ces dernières années, en général, recruter un mec à Salzbourg, c'est rarement une mauvaise idée. C'est plutôt des mecs qui ont été bien scoutés et qui ont été bien formés. Alors, une question ensuite. Florent, est-ce que tu es toujours là avec moi ?
Oui, je suis toujours là pour la dernière.
Là, on a parlé de pas mal de Ligue 1, de joueurs, d'individualité. Là, il y a une question de Ryan Reis qui nous pose une question intéressante qui peut durer 5 minutes comme elle peut durer une demi-heure. Il nous demande si dans une équipe moyenne, ce qui aurait le plus d'impact, c'est l'arrivée d'un joueur offensif de qualité ou celle d'un coach d'exception. Il te donne un exemple, par exemple, et ça va te plaire, Bordeaux, Florent, parce que c'est Bordeaux. Bordeaux, il te dit, est-ce que tu préfères que, par exemple, Pépé arrive à Bordeaux, Pépé ou Draxler, ou que ce soit Guardiola ou Klopp qui arrive à Bordeaux, et qu'est-ce qui aurait le plus d'impact ?
La question est pas simple parce que je pense que les deux réponses peuvent se valoir. Ce qui est intéressant pour rester sur Bordeaux, sans revenir sur les 10 minutes qu'on a fait sur Paulo Sousa, c'est que Bordeaux vient de prendre un coach, alors pas d'exception, mais qui avait une bonne réputation et qui était une bonne réputation sur le plan du jeu à développer et qui a déjà développé des équipes moyennes. Notamment la FIO quand il est arrivé, il les a fait bien performer, on va dire, pendant une saison et demie. Mais je pense que pour une équipe moyenne qui manquerait de talent, c'est vrai que l'arrivée d'un joueur d'exception à court terme peut vraiment faire basculer les choses, comme comme l'a fait Pépé à Lille. Pépé à Lille, ça a été quasi immédiat. Enfin, c'est pas lui qui est arrivé, mais c'est lui qui a franchi un palier d'une saison à l'autre et qui s'est imposé comme un joueur d'exception en Ligue 1 et qui du coup porte cette équipe jusqu'à la Ligue des Champions. Et je pense que pour la Ligue 1, une équipe moyenne avec un très bon joueur peut faire une très bonne saison. J'en avais parlé il y a quelques semaines quand on parlait justement du LOSC, où en Ligue 1, il y a tellement d'équipes qui ont l'habitude de bien défendre, qui savent comment bien défendre, etc., etc., que leur saison peut basculer juste sur un bon recrutement. Tu peux, au lieu de finir 11 ou 12, tu peux finir 4 ou 5, voire 2 quand tu es le LOSC cette saison.
Voire champion comme Montpellier avec Belhanda et Giroud.
Ouais, Montpellier, Belhanda, Giroud, la JOCR de Jean Fernandez, qui sur une
Avec
saison avait fini
du
troisième.
Pedretti, du Yellen, ouais,
Ouais, voilà, avec une ou deux relations et des joueurs en feu, ça suffit. Le problème de cette situation-là, et c'est là où l'intérêt d'avoir le coach d'exception peut compter, c'est que c'est à court terme, parce que quand tu es une équipe moyenne, que tu as un très bon joueur qui fait une très bonne saison, qui va t'amener peut-être en Coupe d'Europe, généralement ce joueur-là, l'été suivant, tu vas le perdre. Parce que tu vas le vendre. Et du coup, tu vas être obligé de passer à autre chose. À l'inverse, si tu es une équipe moyenne et que tu as un coach d'exception qui arrive, tu vas peut-être pas être hyper performant lors de la première saison. Prenons le cas du Liverpool de Klopp, qui a souvent souffert des mêmes maux pendant les 2-3 premières années. Tu me dis si je me trompe, mais pendant les premiers mois, les premières années, tu t'énervais autant sur Moreno qui est Klopp ou qui est Brendan Rodgers. C'était toujours aussi énervant. Par contre, dans la construction.
Sur les gardiens aussi, Florent.
Sur les gardiens aussi, oui. Par contre, dans la construction d'équipe et dans le recrutement ensuite,
Ah, ils ont été
et au
exceptionnels.
bout de la deuxième, de la troisième, et c'est sa quatrième saison là, Klopp, où je m'avance un peu trop, je sais
Il
même plus.
arrive en octobre 2015 pour remplacer Rodgers. Donc il fait 2015-2016, saison à moitié. Il va en finale d'Europa League. Ouais, c'est sa troisième saison complète là.
Ouais, voilà. Et du coup, en fait, c'est dans la construction d'équipe et construction d'un projet que là, l'effet coach d'exception prend tout son sens et sur la durée. Donc voilà, je pense qu'à court terme, l'impact d'un, pour résumer quoi, je pense qu'à court terme, l'impact d'un seul joueur d'exception peut vraiment transformer une équipe moyenne et l'amener beaucoup plus haut que ce qu'elle pourrait faire. Par contre, à long terme, parce que l'équipe moyenne ne pourra pas conserver le joueur en question, en général en tout cas, et ben forcément il vaudra mieux un coach. Il vaut mieux un coach parce que à court terme ça sera plus compliqué pour lui de faire appliquer ses idées parce que voilà c'est des joueurs moyens et jusqu'ici il avait des très bons joueurs mais à terme c'est lui qui va choisir les joueurs ou qui va participer au recrutement parce que de toute façon le coach d'exception s'il n'a pas la main sur le recrutement il va aller ailleurs. Il y aura quelqu'un qui lui donnera. Et du coup, forcément, tu vas être dans une situation où ton équipe va progresser d'année en année et tu te retrouves comme les Liverpool aujourd'hui, c'est-à-dire à la lutte pour le titre et plutôt en bonne posture en Ligue des Champions. Voilà.
Ouais. Et il y a des cas rares d'équipes moyennes qui arrivent à garder des joueurs d'exception. Je pense à l'Udinese avec Di Natale, qui par
Ouais.
exemple jouait les 10 premières places, parfois l'Europe avec lui. Et depuis qu'il a arrêté, ça
Ouais,
joue le
y a plus
maintien.
grand-chose, ouais.
Et en plus, ils n'ont pas réussi toujours à avoir des très bons coachs. Puis les coachs en Italie, de toute façon, même si t'es bon, t'es jamais bon très longtemps. Donc, enfin, ou alors pour les tops. Donc c'est compliqué pour ces équipes-là. Voilà. Florent, on va s'arrêter là-dessus parce
Voilà.
qu'on est déjà à une heure de podcast.
Un petit peu moins, ouais, 58 minutes. Mais
Ah,
c'est pas
purée.
mal, c'est pas mal. Parce qu'on va revenir assez vite de toute façon, là.
Surtout en l'absence du dieu Kush, on a réussi à survivre sans la contribution de
Du Condor.
notre dieu à tous, notre divinité qui est en train de se mettre à l'envers, je pense, ce soir.
Oui, il a une petite soirée spéciale, ouais. On va
Oui.
pas rentrer dans les détails, par
Il a
contre.
envoyé des photos assez floues, donc je pense que la maîtrise du téléphone est en perdition déjà à cette heure-là. Il est
Il est
21h23 là,
21h20.
donc il n'est pas si tard que ça, hein, mais bon, à Lille, ils ont l'habitude de commencer tôt, hein, et de le faire tous les soirs. Je crois qu'hier aussi, il était dans une condition assez folklorique.
Petite
Donc
soirée
voilà, donc
privée.
on fait une bise à Christophe. Il ne voulait pas qu'on l'insulte pour son absence, on l'insulte pas, on lui fait des bisous. Encore mieux, on vous rappelle qu'on est présent sur toutes les plateformes d'écoute possibles. Je crois. Alors, il y en a parfois certaines qui mettent du temps à publier les podcasts, mais après, on est dispo sur d'autres, donc faites le tour. Il y en a toujours une qui va vite. Je crois que celle qui est la plus régulière, c'est SoundCloud, si je ne me trompe pas.
Oui. Oui,
Vous
oui, oui.
pouvez en plus télécharger le podcast sur SoundCloud quand on n'oublie pas de cocher la case télécharger. Mais en général, on y pense. On est sur vuduban.fr, on est sur les réseaux sociaux, Twitter @vudubanpodcast, sur Facebook aussi. Vous pouvez envoyer vos questions, vos remarques, on les utilisera par exemple pour faire des foires aux questions comme aujourd'hui. Et puis on est sur PMU.fr lorsque vous vous inscrivez sur le site pour parier, pour essayer de gagner de l'argent comme nous. Enfin comme nous. Nous on essaye. Vous allez peut-être en gagner. Vous vous mettez là dans la case code promo, vous mettez VDB. Non seulement vous avez le droit au bonus automatique de PMU, bienvenue. Mais vous avez un bonus de 10 euros en plus, je crois, Florent.
Ouais, un pari gratuit.
Donc voilà, si vous voulez suivre les conseils avisés de Florent, qui est notre chip leader dans Vue du Banc, voilà, vous mettez le code VDB, ça vous fait un pari gratuit en plus d'une valeur de 10 euros. Un mot à rajouter, Florent, quand est-ce qu'on se retrouve ?
Eh bien, mardi, normalement, dans la journée pour nous, et du coup, en début de soirée pour tout le monde, et on reviendra évidemment sur les deux matchs de l'équipe de France face à la Moldavie et face à l'Islande, et peut-être d'autres matchs de ces qualifs, de ce début de qualif pour l'Euro 2020. Il y a un petit Pays-Bas-Allemagne, par exemple, sur lequel on reviendra peut-être. Voilà.
Voilà. Bah, on se dit à mardi, on vous souhaite un bon week-end, puisque ce podcast, vous l'écouterez sans doute vendredi, si votre jeudi soir est un peu trop rempli. Ciao.
Salut. Et cordialement, du coup.
Vous pensez avoir tout compris ? C'est le moment de parier sur PMU.fr, le numéro 1 du pari.